journal du midi. Marthe Cacou.
Nous sommes le mercredi 6 septembre 2023. Tout de suite, les faits majeurs. La Journée nationale de l'excellence, 10e édition, c'était hier au cours d'une cérémonie solennelle durant laquelle 83 prix ont été décernés. Chaque lauréat, dont Ma Camara, la première femme journaliste, reporter d'images en Côte d'Ivoire, a reçu un diplôme, un trophée et un chèque de 10 millions de francs CFA. Tout à l'heure, Patrick Hachi, le premier ministre ivoirien, situera l'importance de cette initiative. Nous reviendrons aussi sur les élections locales, notamment la période du contentieux. Ce sera dans quelques minutes avec Émile Brottier, le porte-parole de la CEI. Cependant, le délai imparti pour la procédure de réclamation pourrait poser un problème de droit, selon un juriste et analyste politique. Puisque les élections sénatoriales sont prévues pour le 16 septembre prochain, Geoffroy Julien Kouaou, que vous entendrez dans ce journal-là. Premier sommet africain sur le climat au Kenya, les négociations prennent fin aujourd'hui. Après 3 jours de débat, les dirigeants africains sont en quête d'une voie commune pour une croissance verte. Nous terminerons avec le directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, spécialiste des questions de défense et de sécurité, Sylvain Guessant, l'invité de la rédaction, se penchera sur la crise qui secoue en ce moment le Niger suite au coup d'état militaire intervenu dans ce pays. Voilà pour l'ossature. Bonjour à tous. Au total, 83 prix ont été remis à 36 personnes morales, 49 personnes physiques, dont 34 hommes, 13 femmes, dont Ma Camara, la première femme journaliste, reporter d'images en Côte d'Ivoire, et un couple issu de 12 structures de l'administration publique, 17 entreprises du secteur privé, 4 sociétés de coopératives et ONG, 3 associations de développement et organisations socioculturelles lors de la cérémonie solennelle. La Saint-Laurien ont été récompensés hier pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes dans la probité, la discipline et le travail. Et ils ont reçu chacun un diplôme, un trophée et un chèque de 10 millions de francs CFA. Sur l'importance de cette initiative, de ce prix et de cette journée nationale de l'excellence, on écoute le Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi.
Il vous a plu d'instituer en 2013 le prix national d'excellence qui valorise les Ivoiriennes et les Ivoiriens modèles qui se sont dévoués, tout comme vous, et à leur humble niveau pour leur pays, pour le faire grandir et pour le faire rayonner. L'organisation de la présente journée nationale de l'excellence, la 10e, participe ainsi de la volonté de promotion et de la mise en lumière de nos frères et sœurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail et leur engagement, qui ont su forcer l'admiration dans leur corporation. En 10 ans, ce sont plus de 651 lauréats qui ont été récompensés, du secteur public comme du secteur privé, dans des domaines variés qui tous impactent le développement de notre grand pays. Cette journée nationale de l'excellence nous incite à serrer les rangs derrière votre vision pour aller toujours plus haut et toujours plus loin. Cette journée nationale d'excellence nous invite à redoubler d'efforts également pour continuer de construire sous votre égide notre grande nation.
C'était Patrick Hachi, le Premier ministre ivoirien. Je rappelle que la cérémonie solennelle de remise de prix à l'occasion de la Journée nationale de l'excellence était présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Retour sur la prochaine étape à franchir par les candidats malheureux aux récentes élections locales, municipales et régionales couplées au moment où s'ouvre la phase des réclamations pour ceux qui souhaitent contester les résultats. Quelle est la procédure à suivre? Élément de réponse avec Émile Brottier, le porte-parole de la CEI, qui relève au passage la satisfaction de l'institution quant au bon déroulement du double scrutin.
Les candidats qui estiment que leurs droits n'ont pas pu prospérer pouvaient saisir le Conseil d'État. Mais cela se fait via la commission électorale indépendante. Et ces documents doivent être déposés en 10 exemplaires auprès du service juridique qui, de par sa compétence, permet de transférer votre doléance au Conseil d'État qui lui statue.
La CEI ressort de ces élections avec le sentiment d'avoir bien mené sa mission?
Depuis 2019, nous avons une équipe qui a pour leader M. Koulibaly Kubia Ibrahim et qui au quotidien nous instruit Et ensemble, nous travaillons pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que ce que nous avons connu de par le passé, c'est de faire en sorte que ces choses ne se répètent pas. Et c'est pour cela que depuis près de 20 ans, nous avons organisé des élections législatives inclusives et que tous les partis ont accepté. Là, nous venons d'organiser 2 scrutins. Moi, je n'ai pas entendu qu'il y ait eu mort d'homme, qu'il y ait eu des blessés. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais nous travaillons au quotidien et nous avons pour partenaires les partis politiques. Vraiment, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait la paix dans ce pays.
Émile Brottier, porte-parole de la CEI, la Commission électorale indépendante, il a été joint par Aoussi Potin. Pour la période de la contestation des résultats, le délai imparti pourrait poser un problème de droit à raison de la date des prochaines sénatoriales prévues pour le 16 septembre prochain. C'est ce que pense ce juriste et analyste politique, Geoffroy Julien Kouaou, que nous écoutons.
Au regard des résultats que nous avons, il est évident que le RHDP ayant la majorité des conseillers régionaux et municipaux par favori. Mais une autre remarque, c'est que les élections sénatoriales sont prévues pour le 16 septembre prochain. Or, le contentieux de l'élection municipale n'est pas encore terminé, ce qui pose un problème en ce sens que les électeurs de l'élection sénatoriale sont les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Autrement dit, si par extraordinaire, le Conseil d'État venait à annuler une élection, celle-ci devait être reprise dans 3 mois. Ce qui veut dire que les électeurs qui sont les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui ont participé à l'élection des sénateurs n'auront pas eu la qualité, ce qui peut poser un problème de droit.
À l'instant, Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique. 80 observateurs de la section ivoirienne du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix ont été déployés dans plusieurs localités afin de suivre de près ces élections. Dans l'ensemble, le WANEPSI dit avoir constaté le bon déroulement des scrutins dans un climat apaisé malgré quelques incidents observés ça et là dans des bureaux de vote. Écoutez plutôt les précisions de Ovi Kofi Jean-Marc, le coordonnateur national de cette ONG.
Les remontées d'informations nous ont permis de constater la bonne tenue générale de l'élection dans un climat plutôt apaisé. Cela n'a pas empêché que nous avons enregistré quelques incidents. Au titre de ceci, nous avons eu des incidents liés à la logistique, faisant allusion aux tablettes qui ont été défaillantes ou alors aux dispositions dans les salles de vote qui ont été observées mal faites. Face à cela, des dispositions ont été prises par les agents de présence afin de régler la situation. Concernant les nouveaux majeurs, il y a eu également quelques incompréhensions de la mesure où ceux-ci ne se retrouvaient pas sur les listes. Cependant, avec le concours des présidents des CEL, ces litiges ont été réglés dans la plupart des cas. Il faut aussi noter que notre mission d'observation était déjà présente la veille des élections et le lendemain de celle-ci afin de percevoir la situation socio-sécuritaire et politique. Il faut noter aussi que le lendemain du scrutin, certains candidats se sont autoproclamés sans attendre les retours ou les décisions définitives de la commission électorale indépendante. Incident qui aurait pu ou qui, dans certains cas même, a entraîné des tensions entre les partisans des camps opposés. Il faut noter aussi la présence des forces de défense et de sécurité qui, dans bien des cas, sont intervenues afin de ramener l'ordre dans les lieux de vote et dans les différentes communautés. Il y a encore des points à améliorer, mais WANEP Côte d'Ivoire réitère son engagement en faveur du passé de la bonne gouvernance et entend, sur les bases de ce rapport d'observation, poursuivre ses actions de consolidation de la paix par l'éducation des citoyens.
C'était Ovi Kofi Jean-Marc, coordonnateur national du WANEPSI, la section ivoirienne du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. La Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique et non politique prévient quant à la pensée unique que la victoire du RHDP au municipal et régional la couplée du 2 septembre dernier pourrait entraîner. Elle appelle aussi l'opposition à se remettre en cause pour les élections à venir tout en exhortant les indépendants vainqueurs à se montrer responsables. C'était ces recommandations que la FIDOP a rendues publiques au terme de ce processus électoral qu'elle dit avoir observé de bout en bout. Boga Sako-Gervais est le président de la FIDOP.
La suprématie du parti au pouvoir est-elle avantageuse pour la démocratie? La FIDOP dit non. En effet, le parti au pouvoir devrait tout de même œuvrer pour que le jeu électoral soit plus ouvert, qu'il soit juste, transparent pour tous les candidats. Car à vaincre, sans péril, on triomphe sans gloire. Ce qui ferait le sentiment d'un retour au parti unique ou d'une dictature rampante ou sournoise. L'opposition ivoirienne devrait tirer toutes les leçons de sa débâcle à ces élections du 2 septembre 2023. L'opposition devrait penser à mieux se préparer pour toutes élections à venir. Elle devrait penser à une unité au lieu de se disperser et de s'affronter elle-même. L'opposition pourrait aussi plutôt mettre en avant l'intérêt général en faisant le choix de meilleurs candidats lorsque cela est nécessaire. Les indépendants élus devraient éviter de troubler le jeu démocratique. Ils s'imposent aux indépendants d'assumer leur indépendance jusqu'au bout. Retourner vers son parti d'origine pour lui verser sa victoire ou rejoindre un quelconque parti avec sa victoire moyennant généralement forte rémunération est une haute trahison à l'égard du peuple qui devrait penser à ne plus jamais vous accorder sa confiance à l'avenir.
Boga Sako-Gervais, président de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique et non politique. Éducation nationale, rentrée scolaire 2023-2024. Les inscriptions au CP1 ont débuté il y a 2 jours à la maternelle et au cours préparatoire première année à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Daoukro. Ces inscriptions s'achèvent ce vendredi 8 septembre. Bien qu'elles soient gratuites, ces inscriptions qui n'attirent pas pour l'instant grand monde dans la plupart des établissements scolaires visités par notre correspondant sur place, François Kra.
Les premiers jours sont toujours ainsi. C'est le jour de la rentrée que les parents arrivent massivement, a regretté le directeur de l'EPP d'Iwulakro 1, Kofi Konan-Léopold.
C'est l'amer constat. Jusque-là, les parents ne s'affichent pas. Dès la rentrée, à partir du lundi 11, nous serons débordés et c'est difficile pour le directeur d'allier en même temps enseignement et encore recrutement.
Pour Brou-Laurent, cette lenteur des parents est liée au manque de moyens financiers.
Si je suis à Daoukro et que je dois inscrire mon enfant à Soubré ou bien à Saint-Pedro ou bien à Boisseau, aujourd'hui, la date fixée comme la fermeture, c'est le 8 septembre. En un mot, le délai est court. Je fais comment ? Les moyens financiers, en tout cas, font défaut.
Des personnes interrogées en ville disent ne pas être informées du déroulement de l'opération.
Kadjo Maurice, moi-même, je ne suis pas au courant. Hein. Ça, c'est un truc. On doit dire un mois avant la rentrée. Il faut qu'on fasse circuler le griot. On doit annoncer dans les églises, dans les mosquées, si possible, même dans les marchés, pour que les femmes soient au courant, afin d'informer leur mari.
Assez Mathieu Billet, directeur principal du groupe scolaire de Gagou, a dit le contraire.
Chaque année, c'est la même chose. Quand on dit que la rentrée fixée à telle date une semaine avant est réservée, n'est-ce pas, aux inscriptions au CPM. Donc nous y sommes habitués et logiquement, ça ne devait pas poser de problème.
À en croire Ebouo Kouassi Joseph, conseiller principal d'inspection, ces inscriptions s'effectuent de 7h30 à 16h30 dans les écoles primaires et maternelles publiques. François Kra, Daoukro, Radio de la Paix.
De passage à Odienné, au mois de janvier dernier, le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire a dit avoir été bouleversé par le taux élevé des décès maternels dans la région du Kabadougou. C'est pourquoi il a pris l'engagement d'accompagner les femmes de la localité à travers un projet dénommé l'Oyuma, qui signifie en langue locale le jour du bonheur. Ce projet pilote devrait à terme permettre à la Côte d'Ivoire de freiner ce type de décès à l'horizon 2030. Là-dessus, on écoute Dr Jean-Marie Riviani Yamego.
Pour nous, pour l'OMS, l'Oyuma, c'est vraiment la réponse à cette question de mortalité élevée, que ce soit pour les mères, que ce soit pour les nouveau-nés, que ce soit pour les enfants. Alors, l'Oyuma est effectivement une initiative, c'est une réponse, c'est une des solutions. Pourquoi ? Parce que l'Oyuma, ça va améliorer les consultations prénatales, ça va améliorer la détection des risques. Enfin, l'Oyuma, on espère qu'avec d'autres partenaires, on pourra travailler sur l'alphabétisation des femmes, qui permettra à la femme d'être autonome.
Aujourd'hui, le taux de mortalité maternelle ici en Côte d'Ivoire est autour de combien ?
Le taux de mortalité maternelle est passé donc de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes à 380 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ça, c'est les 380 décès, c'est le recensement général de la population de 2022. Il est encore très élevé parce que l'objectif d'ici 2030, c'est être à moins de 140 décès pour 100 000 naissances vivantes. La Côte d'Ivoire est à 380. 2030, c'est dans 5 ans. Et il faut accélérer les initiatives. Il faut qu'il y ait des initiatives comme celles que nous venons de lancer qui puissent amener un engagement de ces différents niveaux, faire en sorte qu'on accélère l'atteinte de cet objectif développement durable, qui est l'objectif numéro 3, 2030. Il est encore élevé pour la Côte d'Ivoire et c'est ça le défi qu'on doit relever dans toutes les régions du pays.
Docteur Jean-Marie Vianney Yamehogo, représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, il était au micro de Bakary Touré Labas, notre correspondant dans le district autonome du Dinguili. Actualité au Kenya, les négociations du premier sommet africain sur le climat s'achèvent aujourd'hui à Nairobi, la capitale, après 3 jours de débats destinés à promouvoir le potentiel unique du continent pour une croissance verte et à bâtir un discours commun dans les négociations climatiques. Une déclaration finale attendue dans l'après-midi. Lors de ce sommet, le président kenyan William Ruto a appelé à saisir l'opportunité sans équivalent pour les pays africains de tirer profit économiquement du développement des énergies propres tout en participant à la lutte contre le réchauffement climatique dont ils sont une des principales victimes, rapporte l'AFP. Et puis au Nigeria, la cour d'appel d'Abuja se prononce aujourd'hui sur la contestation par l'opposition des résultats de la présidentielle de février qui a porté au pouvoir Bola Ahmed Tinubu en poste depuis mai. Les 5 juges délibèrent depuis des mois sur une série de poursuites engagées par le principal parti d'opposition, le Parti démocratique du peuple et le Parti travailliste, qui dénonce fraude et irrégularité, écrit l'agence France Presse. Place maintenant à l'invité de la rédaction, c'est un analyste politique, spécialiste des questions de défense et de sécurité, et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Et avec Sylvain Guessant, il est question de la crise qui secoue en ce moment le Niger suite au coup d'état militaire intervenu dans ce pays. En lieu et place de la menace d'une intervention militaire contre la junte de Niamey, Sylvain Guessant conseille à la CEDEAO la voie de la négociation et rien que la négociation. Sylvain Guessant est interrogé par Soro Adams.
Bonjour monsieur Sylvain Guessant.
Bonjour monsieur.
Il y a comme une effervescence dans la sous-région ouest-africaine avec le coup d'État intervenu le 26 juillet 2023 au Niger. Que vous inspire cette situation, ce coup d'État?
D'abord, ce coup d'État est difficile à comprendre, à la mesure où tout semblait quand même s'améliorer au Niger, avec différentes réformes sociales, avec le taux de croissance, avec un président sortant qui a refusé de modifier la constitution, qui a fini ses 2 mandats, qui s'en est allé, un autre qui a été élu. Bref, tout semblait aller mieux. Sur le front sécuritaire également, les attaques semblaient en baisse. Et ce coup d'État est intervenu. Bon, le coup d'État, en tant que violation de la constitution du droit international, il l'a condamné. Donc, les différentes médiations qui ont lieu présentement sont compréhensibles dans la mesure où ce serait de trop ce taux de coup d'État avec d'habilité au pouvoir au Niger.
Et donc, que faut-il faire?
Malheureusement, le coup d'État a été fait par des militaires, par des unités d'élite, et la population semble de plus en plus soutenir ces hommes forts-là, cette nouvelle direction de putschistes au Niger. Je pense qu'il faut multiplier les médiations, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, à mon avis, qu'une médiation pour un éventuel retour au calme, retour dans les casernes des militaires. Je ne vois pas d'autre alternative que la médiation.
Alors, M. Sylvain Guessant, la CEDEAO demande que le président déchu, Mohamed Bazoum, soit réinstallé dans son fauteuil. Est-ce possible aujourd'hui, presque un mois après ce coup d'État?
Ce serait l'idéal, mais les militaires sont déjà arrivés loin. Comme vous le constatez, ils ont commencé vraiment à asseoir leur pouvoir, hein, avec le premier ministre nommé, un gouvernement par la suite, différents directeurs généraux nommés, et officiellement, toute l'armée nigérienne a fait allégeance aux nouveaux dirigeants, et la jeunesse s'y met, la population s'y met. Déjà, il y a eu un appel à ceux qui voudraient défendre le Niger en cas d'attaque. On a vu le monde qui a déferlé au terrain. Donc, ce serait quand même difficile, à mon avis, à l'état actuel, que ces militaires-là laissent le pouvoir pour retourner à Kazen. Je serais quand même surpris qu'on arrive à ce stade-là.
Mais la CEDEAO, oui, pour les tractations, les négociations. Mais si celle-ci échoue, l'organisation sous-régionale menace d'intervenir militairement. C'est du domaine du possible, ça, selon vous?
Je ne crois pas trop en cette option. Comme mesure dissuasive, oui, mais une opération militaire à Niamey, je n'y crois pas trop. D'abord, le président Bazoum, qu'on voudrait installer à la suite de cette opération militaire, je crains qu'à la fin de cette opération, il ne soit plus en vie. À côté de cela, le Niger a été rejoint par deux autres pays qui sont ses alliés présentement, le Burkina et le Mali. Et donc, les trois mis ensemble, ça fait 11 pays avec lesquels ils ont des frontières. Alors, comme dans toute guerre, des armes sont distribuées à ceux qui sont enrôlés, comme les jeunes gens qu'on a vus au stade de Niamey le week-end passé. Alors, des armes qui se retrouveraient dans les 10 pays environnants, dont les pays côtiers, et sans oublier l'autre partie, les terroristes qui seraient de la partie. Pour moi, les incidents seraient négatifs, seraient à déplorer pour nos pays côtiers, surtout la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin. Donc, qu'on puisse privilégier d'autres mesures pour que ces armes-là qui seront distribuées aux jeunes Nigériens ne se retrouvent pas dans nos pays, déjà sous la menace des groupes armés terroristes.
Donc, pour vous, les risques sécuritaires pour la sous-région, c'est certain.
C'est certain. Déjà que la menace est là, tous les pays côtiers en dehors du Ghana, pratiquement, sont reconnus une ou deux attaques terroristes. Donc, avec des armes qui vont se retrouver encore en pleine nature, les armes, ça sert seulement à tuer. C'est vraiment difficile qu'on puisse faire face à tous ces fronts-là à la fois. Et donc, les incidences, ça concerne tous les pays côtiers de notre espace. Il faut privilégier la recherche de la stabilité. On a vu déjà le cas de Tripoli. On me dira que ce n'est pas le même contexte, mais on pourrait aboutir malheureusement au même résultat.
Et qu'est-ce que vous dites aux responsables de la CEDEAO?
Il faut poursuivre les négociations. C'est vrai que ce putsch-là est trop, il n'est pas acceptable, mais ce n'est pas une raison aussi pour que des armes se retrouvent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce serait regrettable à mon avis. Donc il faut privilégier la négociation et par-dessus tout privilégier la recherche de la stabilité.
Je vous remercie, M. Sylvain Guisson.
C'est moi qui vous remercie.
L'invité du jour, analyste politique, spécialiste des questions de défense et de sécurité, puis directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, répondait aux questions de Soro Adams. Avant de nous quitter, le rappel de l'essentiel. Journée nationale de l'excellence 2023. 83 prix ont été décernés lors de la 10e édition. C'était hier au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État et durant laquelle chaque lauréat, dont Ma Camara, la première femme journaliste reporter d'images en Côte d'Ivoire, a reçu un diplôme, un trophée et un chèque de 10 millions de francs CFA. Pour le Premier ministre Patrick Hachi, l'organisation de cette journée participe de la volonté de promotion et de mise en valeur des personnes qui se sont distinguées par la qualité de leur travail, leur engagement et qui ont su forcer l'admiration dans leur corporation. Merci de votre attention. Je serai de retour dans ce studio à 15h pour le Flash. Mais avant, voici la revue de presse présentée par Francis Cassi.
Bonjour à tous. C'est par l'édition 2023 qui a eu lieu hier au palais de la présidence à Abidjan Plateau de la reconnaissance de la nation ivoirienne envers certains citoyens depuis une dizaine d'années.